Depuis plus de 60 ans, Cheminée Charrier Artisan RGE vous conseille dans vos besoins de chauffage. Chez Cheminée Charrier, aucun sous-traitant. Techniciens, installateurs, tailleurs de pierre, ramoneurs, commerciaux sont là pour répondre à votre projet et vous apportent un service unique sur le marché local, le sur-mesure. Poussez les portes de notre magasin pour y découvrir poêles, inserts à bois et granulés, cheminées sur-mesure, fabriquées dans nos ateliers à Moise. Plus de 50 modèles exposés en magasin, dont plusieurs en fonctionnement. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort. 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Cheminée Charrier, l'artisan de votre belle flambée depuis 3 générations.
Toute l'information locale et départementale sur Demoiselle FM.
Demoiselle Midi, l'info d'ici.
Bonjour à tous. Un alerte orange vent est cru dans notre département avec le passage de la tempête Niels sur le nord de la France qui entraîne un net renforcement du vent sur toute la façade atlantique, indique Météo France. Dès ce soir et la nuit prochaine avec des rafales jusqu'à 115 km/h sur notre littoral. Concernant les crues, l'eau continue de monter à cause des intempéries. Une alerte crue qui concerne en particulier la Seugne dans le secteur de Pont et Saint-Germain-de-Lusignan. La Boutonne, la Seudre et la Charente, elles sont en alerte jaune. Le préfet invite à la plus grande prudence. Une vaste opération contre le narcotrafic à La Rochelle et Puy-le-Bourreau vendredi dernier dans le cadre du CODAF, Comité Opérationnel Départemental Antifraude. Les forces de l'ordre ont mené plusieurs actions. Bilan, 6 établissements commerciaux qui pourraient se voir ordonner une fermeture administrative. 2 procédures ouvertes pour blanchiment après la découverte de sommes importantes d'argent en liquide dans 2 restaurants. 1 procédure pour travail dissimulé, 1 procédure de fermeture de commerce au titre de la loi narcotrafic et enfin 2 sanctions pour manquement en matière d'hygiène. Et par ailleurs, plus de 40 policiers ont été mobilisés sur des opérations de contrôle, notamment à Mireuil. Bilan de cette opération, 7 interpellations, dont 5 pour trafic de stupéfiants. 4,5 kg de résine de cannabis, 300 g d'herbe ont été saisis, ainsi que 1,7 kg d'héroïne, 100 g de cocaïne et plus de 190 000 euros en numéraire, 3 armes de catégorie B et enfin un véhicule volé découvert. Les investigations se poursuivent. Elles vont donner lieu à plusieurs déferments au parquet avec poursuite devant le tribunal correctionnel. Et par ailleurs, 8 véhicules ont été incendiés le week-end dernier. Un lien entre ces faits et l'opération CODAF de vendredi ne sont pas à exclure, indiquent les services de l'État. 10 ans après, Rochefort n'oublie pas. La ville organise ce midi un hommage aux 6 victimes du terrible accident de car survenu le 11 février 2016 sur l'avenue Bachelard au port de commerce. Une dramatique collision qui a traumatisé la ville et ses habitants. Emmanuel Bidot.
Oui, ce matin-là, vers 7h20, alors qu'il fait nuit, le chauffeur d'un camion-benne appartenant à la société FH quitte le dépôt. Il contourne le bassin du port de commerce sur l'avenue Bachelard. Mais voilà, la ridelle gauche, sorte de porte latérale, est abaissée à 90 degrés. Une automobiliste qui circule dans l'autre sens arrive à éviter l'impact avant la collision avec le car transportant des lycéens en direction de Surgères. La ridelle cisaille le véhicule sur presque toute sa longueur. Une scène d'horreur avec 6 adolescents tués, mais aussi 2 blessés. Une collision gravissime qui va mobiliser d'importants moyens de secours avec blocage total de l'avenue Bachelard. Les ministres de l'époque Ségolène Royal et de l'éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem se rendront sur place à la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée dans le gymnase de la Vieille Forme. Elle a accueilli des centaines de personnes venues se recueillir. Le chauffeur du camion Ben, âgé de 23 ans, sera lui placé en garde à vue, puis remis en liberté et mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Après l'incompréhension, les investigations, une longue enquête qui aura duré 6 ans, centrée principalement sur le camion et le fonctionnement de la ridelle jusqu'au procès redouté qui s'est déroulé au tribunal judiciaire de La Rochelle dans une salle spécialement aménagée pour l'occasion. 2 jours de procès, les 28 et 29 mars 2022 et des débats d'une grande dignité avec les témoignages des familles toujours détruites par la perte de leurs enfants et le chauffeur du camion Ben sur le banc des prévenus, sous antidépresseurs et particulièrement marqué par cette dramatique collision. Des psychologues seront même présents dans la salle pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent. Le tribunal rendra son jugement quelques semaines plus tard, le 5 mai 2022. Le chauffeur sera au final condamné à 5 ans de prison avec sursis. Après cet accident, un probable. L'ancienne députée de Rochefort, Frédéric Tufnel, a fait évoluer la réglementation pour l'installation d'alarmes sonores et visuelles signalant l'ouverture de ridelles dans les camions, comme pour les portières de voitures. Un drame qui a traumatisé la cité de Colbert. Beaucoup de Rochefortais et de Rochefortaises se souviennent avec émotion de ce qu'ils faisaient et où ils étaient quand ils ont appris la nouvelle. C'était donc il y a 10 ans.
Moment de recueillement donc ce midi à la stèle commémorative située avenue William Ponty à Rochefort. 6% de trafic pour le port de commerce Rochefort-Tonnet-Charente par rapport à 2024, plus 6%. Les deux sites ont accueilli 206 escales de navires pour un tonnage total de 633 000 tonnes. Pour le port de Rochefort, le trafic est en légère baisse, 2,7%. C'est le trafic du port de Tonnet qui permet de compenser avec une hausse spectaculaire du trafic de céréales, plus 60%. Céline Viron, directrice du syndicat mixte du port de commerce de Rochefort-Tonnet-Charente.
Belle année 2025 qui s'est soldée par une augmentation d'un peu plus de 6%, avec un tonnage qui est repassé au-dessus de la barre des 600 000 tonnes, puisqu'on est à 633 000 tonnes, et qui a été notamment boosté par le retour des exportations de céréales. Une bonne année de céréales pour nos agriculteurs, donc une bonne année d'exportation pour les ports français globalement, dont Tonnet-Charente, et les importations de bois sur Rochefort.
Pour 2026, le port va s'étendre sur presque la totalité des espaces disponibles à Rochefort. Cela comprend les terrains entre le lycée Marcel Dassault et l'avenue Bachelard et les terrains occupés par les maisons le long de l'avenue Libération. La dernière est achetée aujourd'hui par le port. Céline Viron.
Avec l'achat de la dernière maison qui va nous permettre de réaffecter 7 000 m² à l'activité portuaire, l'achat de derniers hangars, le réaménagement d'anciens hangars sur les terrains SNCF, on arrive effectivement au bout de l'aménagement quasiment du port de Rochefort qui va arriver dans sa superficie maximum pour permettre d'accueillir le plus de trafic sur nos ports. Sur le port, nous allons bientôt avoir la chance d'accueillir l'entreprise qui mène les travaux sur le Fort Boyard avec une implantation de basse travaux qui va rester sur le port pendant 2 ans.
Autre sujet de réjouissance pour le port, les futurs parcs éoliens en mer au large d'Oléron. Le port devrait participer à la construction des éoliennes avec l'accueil des pièces les moins volumineuses. Le projet de parc est à l'arrêt après l'échec de l'appel d'offres pour le parc Oléron 1. L'adoption du PPE, plan pluriannuel de l'énergie, la feuille de route nationale pour la production énergétique, doit intervenir d'ici la fin de semaine. Céline Viron.
Dans le cadre du consortium Aquitania Wind Energy avec les 3 autres ports de commerce de Nouvelle-Aquitaine, on reste persuadé que ces projets éoliens flottants vont se développer. On attend d'ailleurs la signature de la PPE très prochainement, ce qui, on espère, va relancer les appels à projets, le développement de l'éolien sur l'arc atlantique et sur nos ports. Exactement en accueillant les plus petits éléments et en espérant pouvoir faire travailler nos entreprises locales.
Le syndicat mixte portuaire étudie également l'achat de l'ancienne usine à charbon de Tonnet-Charente pour s'étendre encore davantage à Tonnet. 2025, une année particulièrement difficile pour les agriculteurs du département. Le président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, Cédric Trancard, a fait le point à l'occasion du bilan du comité interconsulaire organisé à la CCI 17. L'agriculture s'enfonce dans la crise, on est en berne, a-t-il dit à l'Assemblée. Les céréaliers doivent faire face à des cours mondiaux bas et les viticulteurs traversent une mauvaise passe avec l'augmentation des droits de douane à l'export. Cédric Trancard.
On a aux alentours de 4000 agriculteurs sur les 5600 qui vont être à zéro ou en négatif cette année, quoi. Et donc, c'est là qu'on sait réellement le baromètre de l'économie agricole. On est aux 3/4 en difficulté aujourd'hui, effectivement, avec des difficultés plus récurrentes pour certaines productions. Difficultés récurrentes aujourd'hui pour la viticulture. Et malheureusement, on ne voit pas forcément d'embellie, ce qui est dommage quand on nous parle d'un plan à 10 ans, très bien, mais il faut que ça se mette en place rapidement, il faut des soutiens, il va falloir aider, parce qu'après avoir porté haut et fort les couleurs de la viticulture, du cognac et du pinot en Charente-Maritime, il serait bien aujourd'hui, après les avoir poussés à investir, peut-être même trop, maintenant il va aussi falloir être capable de pouvoir les aider à passer ce mauvais cap, quoi.
Cédric Trancard souligne également le manque crucial de main-d'œuvre nécessaire, en particulier dans le maraîchage et la viticulture. Une difficulté de plus qui complique la vie des exploitants agricoles. Midi 14 sur Demoiselle, la suite de votre journal après la pub.
Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule, ne vous trompez plus. Choisissez l'éléphant bleu à Tonnet-Charente. Éléphant bleu, c'est trois pistes de lavage haute pression pour voitures, camping-cars, utilitaires et deux roues. En nouveauté sur les pistes haute pression, la mousse active. Une mousse couvrante, économique en eau et respectueuse de l'environnement qui se pose juste avant le lavage pour de meilleurs résultats. 86% des clients sont déjà satisfaits par l'efficacité de la mousse active. Alors pourquoi pas vous ? Éléphant bleu, c'est également un rouleau automatique, trois aspirateurs, un gonfleur, une soufflette, un lave-tapis et un parfum. Éléphant bleu, 53 avenue de Saint-Onge à Tonnet-Charente, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Éléphant bleu, la propreté qui s'impose.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Votre agence de Rochefort, 14 rue Cochon du Vivier.
Il existe une île où tous les enfants sont rois. C'est l'île de Tigeau à Tonnet-Charente. Des premiers pas à 2 ans, les enfants peuvent s'amuser et se dépenser sur plus de 1400 mètres carrés. En intérieur, labyrinthe, manège, karting, toboggan, gonflable, parcours de tir de balles en mousse, il y a du choix. Un super trampoline et un parcours d'obstacles. Snack, anniversaire, événements, on y passe toujours de bons moments. Ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 19h. L'île de Tigeau, c'est Zach de la Varenne, rue Louis Pasteur à Tonnet-Charente. 05 46 89 30 60. Programme et informations sur l'île-de-tigeau.com.
Demoiselle Midi, l'info d'ici.
La suite de votre journal municipal 2026. À Royan, la gauche prête à conquérir la mairie. Le communiste Jacques Guillard mène la liste intitulée tout simplement Royan à gauche. Un habitué des scrutins municipaux puisqu'il est tête de liste pour la quatrième fois. Jacques Guillard au micro demoiselle d'Emmanuel Bidot.
Jacques Guillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tête de la liste Royan à gauche. Vous êtes bien sûr candidat pour ces élections municipales à Royan 2026. Déjà, dites-nous pourquoi vous avez souhaité rempiler et être à nouveau candidat, parce que ce n'est pas la première fois.
Non, ce n'est pas la première fois que je suis candidat. Ce sera la quatrième fois que je mènerai une liste aux élections municipales dans d'autres villes. Je considère que ma responsabilité de travailler à continuer à faire exister une gauche de transformation sociale dans notre commune, dans un contexte difficile, puisqu'on sait bien que la droite est toute puissante dans notre territoire. Elle peut même se permettre le luxe d'avoir plusieurs listes concurrentes. Et on sait également que le Rassemblement national est en embuscade. Mais il est important qu'on puisse faire exister une parole de gauche. Et pour ça, ça nécessite de se rassembler à gauche pour les municipales, parce que on voit bien que séparément, on n'arrivera à rien. Voilà. Donc j'ai considéré que j'avais un rôle à jouer pour travailler à ce rassemblement de la gauche en tant que conseiller municipal sortant.
Et donc ce programme s'articule autour de quatre grandes thématiques.
Quatre grands axes d'action. L'autre objectif, c'est de travailler avec les habitants à construire une ville active, solidaire, écologique et démocratique. Et donc les quatre grands axes d'action sont favoriser l'installation de jeunes actifs dans notre ville, le premier axe, pour avoir une ville active. Développer les solidarités et la justice sociale, c'est le deuxième axe. Troisième axe d'action, adapter notre ville au changement climatique, soutenir la transition écologique. Et le quatrième axe, développer la vie démocratique, l'implication citoyenne et la culture pour tous. Et ces quatre axes d'action sont déclinés en 17 engagements.
L'axe peut-être le plus important pour vous, c'est quand même le premier, l'installation des jeunes actifs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses à Royan ?
Alors c'est ce axe qui pour nous apparaît prioritaire. Ça ne veut pas dire que les autres n'aient pas d'importance, mais celui-ci est prioritaire parce qu'on constate que nous vivons dans un territoire et dans une ville qui a des atouts. à tout touristique qu'il convient bien sûr de continuer à valoriser, mais une ville qui, de ce fait, est très attractive. Or, cette attractivité et cette activité butent sur des limites et restent extrêmement fragiles. Elle est source d'emplois précaires, de chômage, et elle contribue à un vieillissement de notre population et à un déséquilibre entre actifs et retraités. Et c'est cette donnée-là qui nous amène à considérer que pour que notre ville se développe, pour qu'elle soit active, pour qu'elle soit attirante, mais pas simplement pour des gens qui viennent passer leur retraite ici, il faut se donner trois priorités. Et nos trois priorités, c'est le logement, l'emploi et la formation. La première priorité, c'est d'accorder la priorité au logement locatif social et aux résidences principales. Si on veut... On connaît le prix de l'immobilier sur Royan. Il est difficile de se loger dans le secteur privé. Et nous avons, malgré quelques progrès, un déficit considérable de logements sociaux. On doit être à 12% à peu près maintenant. On est loin des 25% exigibles dans la loi. Mais même sans s'occuper des 25% exigibles dans la loi, prenons simplement en compte les besoins. Actuellement, dans les demandes d'accès à des logements sociaux, ils doivent être de 3500 à peu près ou 3400 sur la communauté d'agglomération, dont 1300-1400 en premier vœu Royan. Ça signifie donc qu'on a un déficit d'au moins 1400-1500 logements sociaux sur Royan pour répondre aux besoins. Et donc, nous proposons un certain nombre de mesures pour résorber ce déficit et se donner cette priorité en même temps que la priorité aux résidences principales. La deuxième axe, le deuxième engagement, c'est celui de l'emploi. On a un secteur touristique qui est prédominant dans notre territoire, je l'évoquais tout à l'heure, et les deux autres secteurs qu'on a, c'est celui du bâtiment et celui de l'aide à la personne. Or, souvent, ça concerne des emplois peu qualifiés, peu rémunérés, souvent des emplois précaires, et donc... Nous considérons comme une priorité, si on veut attirer des jeunes dans notre ville, des jeunes actifs, des jeunes ménages, de diversifier notre activité économique. Et une des orientations, bien sûr, ce n'est pas la seule pour nous, c'est d'industrialiser notre territoire. Alors comprenons-nous bien, on ne fera pas venir de grandes usines dans le pays royanais, mais il y a un certain nombre de secteurs d'activité industrielle qui demandent peu de flux de matériaux, qui demandent peu de surface, qui génèrent peu de nuisances et qui sont porteurs, qui sont des secteurs en développement et qui sont porteurs de création d'emplois qualifiés et bien rémunérés, et bien tournons-nous vers ces secteurs. Alors ça peut être par exemple la fabrication de drones. On a un aérodrome, on a un début d'activité aéronautique qu'il faudrait développer et mener une politique volontariste d'aller rechercher des entreprises pour créer ce type d'emploi, ce type d'activité. Alors moi, je ne parle pas de drones à usage militaire, comme le fait le maire de Royan. Moi, je parle de drones à usage civil, où les besoins sont en croissance considérable. C'est une des pistes, hein, mais il y en a d'autres, je ne veux pas tout développer. Et le troisième engagement dans cet axe pour favoriser l'installation des jeunes actifs, c'est... élever le niveau de formation et de qualification des jeunes royanaises et royanais. On est un territoire où le niveau de formation est inférieur à la moyenne départementale, régionale et nationale. C'est dû à plusieurs facteurs. Le fait qu'on a une population de retraités donc, qui se sont formés à une époque où le niveau de formation exigible était peut-être moins élevé que maintenant. Et le fait également qu'il y a une fuite des jeunes du système scolaire à partir de 15 ans, où on s'aperçoit que, en ce qui concerne la scolarisation des jeunes de 15 à 18 ans, on est 7 ou 8 points en dessous de la moyenne du département, et un peu plus même par rapport à la moyenne régionale. Et par contre, en ce qui concerne les 18-24 ans, on n'est plus qu'à 24% de scolarisation des jeunes royanais de 18-24 ans, contre 42% pour la Charente-Maritime et 49% pour la Nouvelle-Aquitaine. On a donc ici une faiblesse qu'il faut se donner les moyens de compenser. Et pour ça, il faut se battre pour obtenir des formations post-baccalauréat et des formations post-baccalauréat dans des domaines productifs dans des domaines techniques, qu'on n'en reste pas simplement aux formations tourisme, secteur tertiaire, etc. Et donc, il faut avoir une politique volontariste dans ce domaine-là, me semble-t-il.
Un dernier mot sur le mandat du maire sortant, Patrick Maringo. Vous vous dites, en fait, on a un peu privilégié la vitrine au détriment des Royennais.
Oui, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait. Hein, je crois qu'il veut laisser l'image d'un maire bâtisseur, et notamment dans la réhabilitation du patrimoine des années 60. Bon, c'est une bonne chose. On a voté ce genre d'orientation, de délibération lorsqu'elles sont passées au conseil municipal. Mais on ne peut pas en rester à cette conception-là, d'autant que toutes ces orientations, ces investissements sont sous-tendus par une sorte d'illusion. L'illusion qu'il faut redonner à notre ville le lustre qu'elle a connu dans les années passées. Pour certains, c'est la belle époque. Pour d'autres, c'est les années 50-60. C'est une illusion d'abord parce que ça ne signifie pas que dans ces soi-disant belles années, tous les Royanais les ont considérés comme belles, tout au moins en dehors de la saison. Et ce sont des années qui sont révolues. Par contre, tous ces investissements se font, ma foi, au détriment de la qualité de la vie des résidents permanents de Royan et en particulier des quartiers périphériques. Et donc, moi, je considère que la vitrine, c'est peut-être une bonne chose, mais il faut aussi penser, et c'est pas péjoratif de le dire comme ça, à l'arrière-boutique, parce que c'est là que vivent les Royanais. Et nous, notre priorité, ce sera effectivement de répondre aux besoins des Royanaises et des Royanais de la population résidente permanente.
Jacques Guillard au micro, demoiselle d'Emmanuel Bidot. Une réunion publique est prévue le vendredi 27 février pour la liste Royan à gauche. Ça sera à 18h30 à l'auditorium du Carrel. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Et le département en alerte orange, Mickaël.
Eh bien voilà, tout à fait. Hein. Alerte orange, vent écru dans notre département avec le passage de la tempête Nils sur le nord de la France qui entraîne un renforcement du vent sur toute la façade atlantique. Dès ce soir donc, et pour la nuit prochaine avec des rafales jusqu'à 115 km/h sur notre littoral. L'eau continue de monter également à cause des intempéries. Une alerte crue qui concerne en particulier la Seugne dans le secteur Pont et Saint-Germain-de-Lusignan. La Boutonne, la Seudre et la Charente également sont en alerte jaune. Cet après-midi, côté ciel, de fortes pluies sont attendues sur la Charente-Maritime. Température 12 à 13 degrés avec un vent se renforçant, annonçant la tempête Nils pour ce soir.
Retrouvez toute l'info d'ici sur demoisellefm.com.
Merci d'avoir suivi cette édition et bon après-midi sur Demoiselle.